Attention ! Cette critique, en plus d'être complètement subjective et propre à son auteur, est susceptible de contenir des spoilés. En même temps les gars, c'est une critique. Hein, si vous écoutez avant l'œuvre originale, moi je peux plus rien pour vous, hein. Citoyens, citoyennes ! Cette semaine, le choix s'offre à vous. Vous pouvez rester enfermé dans ce quotidien morose qui est devenu le vôtre il y a 5 ans. Ou vous pouvez changer la donne, en prenant les véritables bonnes décisions. Destro City n'a que trop longtemps souffert du joug de notre créateur, incapable et infantile. Cet imbécile qui n'a su s'occuper de vous, alors je vous le dis, cette semaine est vôtre. Cette semaine, vous pouvez mettre un terme à votre calvaire et améliorer votre situation, que dis-je, votre vie. À vous de voter pour la personne adéquate qui saura vous libérer de cet environnement décadent.
Bonjour à toi auditeur auditrice et bienvenue dans la critique d'une nouvelle saga s'il en est. Big City du groupe The Grenadine est une dystopie humoristique.
Oui, c'est possible.
Prenons place à notre époque dans une dimension parallèle, monde dans lequel la commercialisation a perverti les mœurs, la publicité est omniprésente et la propagande est des coutumes. Quoi ?
Une dystopie, hein ?
Présenté sous la forme d'un triptyque avec pour chacun des épisodes une durée qui avoisine les 80 minutes, si ce n'est plus, donc le long métrage en général.
Format casse-noisette, il en est pour les amateurs des formats courts.
L'histoire sera également parsemée de quelques bonus et monos développant une certaine partie du background qui ne pourra que l'enrichir. Au cours de ces 4h et 12 minutes, nous suivrons donc les pérégrinations de multiples protagonistes, et je vais insister sur ce terme puisque la série ne contient pas vraiment de héros à proprement parler pour le coup. Mais arrêtons là ces facéties et partons un peu plus dans le détail de Big City, c'est parti!
Donc là, on arrive dans les spoilers. Donc si vous n'avez pas écouté Big City, bah en fait, vous devriez arrêter là. Mais si vous êtes définitivement bordé, vous pouvez rester. De toute manière, moi je m'en branle, hein. J'écoutais, à la fin, le maire il devient président du monde.
Le premier épisode de Big City commence sur un discours du maire de la ville. Puis après avoir enchaîné quelques placements produits, nous arrivons enfin au premier personnage principal qui nous est présenté, Kate Bobbs.
Bon, je vais au travail, Télénette. À ce soir. Avance, espèce d'empoté.
Absolument, avance. À son travail, elle sourit à tout le monde. Elle est polie avec tout le monde, et même ceux qu'elle n'aime pas. Elle va boire du café à la pause café, même si elle n'aime pas ça, parce que c'est comme ça. Elle va discuter en pause clope, en se prenant la fumée des fumeurs dans les poumons, même si elle ne fume pas, parce que c'est comme ça. Et elle fait son travail, avec le sourire aux lèvres, parce que c'est comme ça dans les publicités sur le télénet.
Ouh là 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 là, ça donne envie.
Kate est un pur produit de la société, elle le vit très bien, du moins c'est ce dont j'ai l'impression. Mais son existence va vite être chamboulée quand tout d'un coup...
Mais qu'est-ce que vous faites, lâchez-moi !
Hey, vous faites mal, madame.
Non mais ça va pas, je suis pas une vieille.
Oui, désolé.
Posez-moi maintenant. Tout de suite !
D'accord.
Ah, merci.
Putain, mais les jeunes de nos jours, faut tout leur apprendre, quoi.
Évite de ternir ton image à 3 jours des élections, hein. Enfin, ainsi soit-il, cette pauvre Kate est donc prise en otage par les fameux... Comment s'appelle-t-il déjà ?
Je m'appelle Owen, et lui c'est Kyle.
Qu'est-ce qu'ils sont nuls ?
Et qui décide donc, suite à un enrôlement de manière totalement random... Ah oui, expliquons. À chaque fois qu'un élément m'énervera ou me fera tiquer, hein, cette critique sera parsemée de points Marcel, définis par le son suivant. Voilà, donc, les deux terroristes décident d'enrôler.
Je pourrais vous rejoindre.
Wow, quoi ?
Je pourrais rejoindre la rébellion. Vous savez, ce serait mieux que de me tuer. On y trouverait tous notre compte.
Qu'est-ce que tu en penses ?
Putain, mais quoi ?
Et la traîne donc dans les bas quartiers, qui ressemblent terriblement aux quartiers pauvres dans Final Fantasy VII, jusqu'à ce qu'ils tombent sur...
Un terrible gangster qui va les tuer !
Hop, 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 pas si vite, mes amis.
On n'est pas tes potes, Burger.
Alors, c'est voulu, hein. Je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est bien joué. Car ceci est la preuve d'un ridicule sans fin et permet de casser certains clichés. Car rappelons-le, nous ne choisissons ni notre physique, ni notre voix. Suffit d'entendre Marcel pour s'en rendre compte.
Quoi ?
Après avoir pété la gueule de Burger et récupéré ses dents, puisqu'il s'agit de la monnaie souterraine, finissent par...
Putain, donne-moi pas chier !
Mais t'es con, quoi, mais...
Tu refais jamais ça, bouffon.
J'aurais pu être riche.
Bon... Après avoir rencontré donc Bob le Clodo, Kate rencontre Marcus, le chef de la résistance, composé de 4 pélos qui commettent des attentats à la bombe. Deux peintures. Ils font des tags histoire d'être des rebelles, quoi.
Antisocial, tu perds ton sang-froid !
Kate, qui n'est décidément pas la moitié d'une conne, propose un plan pour que la rébellion puisse frapper un grand coup pour aller détruire la MURP.
La quoi ?
La MURP.
La comment ?
De... la belle MURP.
Oh putain, t'es con.
Donc, la milice urbaine de répression des pauvres est une faction composée uniquement de connasses et de connards violeurs qui abusent de leur pouvoir, mais ceci dans la parité, car la connerie n'a pas de sexe.
C'est beau le 21e siècle.
Les rebelles décident donc, après avoir réuni l'ensemble des gangsters sous l'appât d'un Deus Ex Machina, faisant de Bob non plus un clodo, mais un clodo réfugié politique qui cachait une armurerie dans son caleçon, d'aller prendre d'assaut le QG de la Murp, d'assassiner les flics présents et de prendre position dans le QG afin d'affronter le lendemain les forces de l'ordre.
Préparez vos culs, ça va chier.
Et attention, car sous vos yeux ébahis, le terrible combat entre la Murp et la RNTBC.
Quoi?
Et là... Des explosions partout, des flingues dans tous les sens, et je me questionne toujours sur la taille du slip de Bob qui a su conserver environ 7,76 tonnes d'armes à feu et de munitions diverses et variées comportant notamment des missiles de bazooka.
Kaboom!
Mais, pendant que nos hommes tiennent le QG de la Murp, Kate, Kyle et Owen ont décidé d'aller faire exploser la fabrique de réserve de Big Cola.
Ceci est un placement produit.
Créant ainsi une gigantesque fontaine du divin nectar dont tout le monde est complètement gaga. Et créant une pénurie au passage. Ceci a pour effet de stopper l'assaut de la police qui se dessape pour courir tout nu sous une pluie de Big Cola tandis que les rebelles tuent tous les agents.
Attends, il pleut du cola ?
Oui, oui, oui.
Putain, mais je vais plus avoir de wa moi à la fin !
Mais croyez bien que tout ce qui se passe est logique en fait, hein. Ce qui fait hurler Marcel pour être exact, c'est la manière dont tout arrive si brusquement. Mais quitte à parler de brusquesse...
Brusquementesse, non ?
Bref, suite à la défaite de la police, il faut savoir que le président des États liés, qui est un peu l'équivalent du président des États-Unis, hein, dans l'univers de Big City, décide de faire de Big City non plus juste une ville, mais un état-cité, et du coup après de l'isoler du monde. Fin du premier mono. Et ce fut...
Nul à chier !
Intéressant. Faisons une pause avant d'attaquer les deux autres épisodes. Jusqu'ici, je n'ai fait que vous résumer très brièvement, de manière à ce que vous conserviez un peu de plaisir lors de l'écoute de votre côté, et de prendre trois extraits et demi sans jamais parler de l'œuvre en elle-même, et c'est un grand tort. Big City est à mes yeux une fiction terriblement ambitieuse, avec une panoplie de références et d'inspirations possibles qui me touchent beaucoup.
Oulala, le sexe, la bise, miou miou miou.
Cette fiction, relent d'absurde, relativement bien maîtrisée soit dit en passant, réussit surtout à faire passer son message et sa critique de cette société de surconsommation dans laquelle nous vivons tous les jours. Outre l'aspect révolutionnaire que vous rencontrerez dans ce premier mono, vous rendrez compte de tous les autres petits détails qui parsèment ce premier épisode, que sont les publicités, les marques, les journaux télévisés ou les séries nanardesques, que nous pouvons retrouver dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qui en fait une réussite totale. Et quelques œuvres avec lesquelles je pourrais comparer Big City seraient Final Fantasy VII et Beyond Good and Evil. Dans Final Fantasy VII, vous incarnez Cloud, un ancien soldat qui se bat dans un groupe terroriste contre une compagnie qui dirige le monde, la Shinra. Vous me direz classique, sauf que la particularité, c'est que Cloud agit quasiment de la même manière que Kate Bobbs. C'est-à-dire non pas parce qu'il est convaincu qu'il œuvre pour une bonne cause, mais parce qu'il a besoin d'argent, donc un besoin vital dans notre société, donc pour sa pomme. Kate Bobbs ici, et je vous le confirmerai par la suite, n'est définitivement pas une héroïne, parce qu'elle agit uniquement pour sauver ses fesses. Toutes ses actions, et ce malgré le fait qu'elle possède une attitude sympathique, nous montrent à quel point cette femme est déterminée à survivre, quitte à changer complètement d'environnement pour l'atmosphère hostile des bas-quartiers.
Comme pour Final Fantasy VII.
Exactement. Et en ce qui concerne Beyond Good and Evil, je vous invite à observer les décors du jeu et vous rendre compte de la surcommunication, de bourrage de crâne et de publicité omniprésente qui l'environne.
Alors pourquoi on a mis des points Marcel partout ?
Principalement à cause de la technique et de l'écriture un poil grossière. Même si j'applaudis le scénario, cela n'empêche que la technique pêche énormément et a tendance à vous rappeler que cette fiction aux prétentions immenses reste limitée en ce qui concerne le mixage et le sound design qui est très...
Abstrait artistique. Ok, je kiffe qu'un ambiance minimaliste parce que ça apporte rien du tout à la scène.
Ok... Enfin bref, Big City se retrouve donc seul au monde, emmuré de partout, ça c'est la grande nouvelle, et sans Big Cola, boisson dont la moitié des habitants sont dépendants. Le manque provoquant le déclin de la civilisation, l'ensemble de la ville se retrouve à l'état de bas-quartier, et c'est pas jouasse. Et ceci est la fin de Big City Révolution. Partons maintenant sur Big City Opération Pacification. Après une introduction nous présentant le plus gros connard de la Terre entière, nous avons le droit à une réunion pour le moins douteuse entre le président des Étaliers et le présentateur Alan Parrish.
C'est lui là, le connard.
Dans lequel on nous apprend que ces deux bons gros fiches de prix méprisants souhaitent se débarrasser de Big City. Notre scène prend donc place 9 mois après notre premier opus, et nous retrouvons notre ville zombifiée par le manque de nourriture, d'électricité, de multiples ressources, mais surtout de...
Le Big Cola, putain !
Ouais, leur Big Cola, bordel de merde !
Qu'est-ce qu'on va faire, bordel ?
C'est pas un bordel, pas vous !
Brut. 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 Br
Voilà. Reprenons donc notre épopée avec une brève présentation de la situation actuelle de Big City par une journaliste dont j'ai totalement zappé le nom.
Et dont on se fout en fait.
À savoir que la ville, nouvellement déclarée cité-état, je vous le rappelle, se retrouve complètement emmurée. Et empêche donc quiconque de sortir. En ce qui concerne le maire de la ville...
Le président-maire, pour être précis.
Nouveau gond entre désespoir et idées de merde. Ce dernier est toujours accompagné de son fidèle conseiller Alistair qui va lui suggérer certaines idées pour le remettre dans le droit chemin. À savoir celui de la reconquête de sa nation.
Mais comment va-t-il faire ?
Eh bien, on verra ça plus tard.
Bouffon.
Mais nous voici de retour sur notre groupe de terroristes préférés.
L'hiver arrive. Un hiver comme jamais nous n'en avons connu. Un hiver... sans bouffe ! On a plus de bouffe, putain ! Faut faire quelque chose !
Bah, on pourrait te bouffer, toi, là.
Cet extrait n'a pas particulièrement d'intérêt. Je trouve juste que cette transition est magique et hilarante. Extrait qui va permettre d'ailleurs de vous rappeler à quel point Big City est bourré de références, et ça, c'est cool.
Ici, Game of Thrones pour les pecnos d'un gueule qui savent pas.
Mais c'est gratuit, ça ?
Ouais, un des rares trucs qu'il y a encore dans ce monde. Profite !
Enfin. Après un bref état de situation que nous connaissons déjà d'un point de vue matériel, on nous apprend aussi l'existence de nouveaux groupuscules parsemés à droite, à gauche dans la cité, selon le détail suivant. Marcel ?
Les Royalties, ancien flic à la solde d'un homme dénommé le King, Burger et son gang, le président maire et les disciples du Big Cola.
Les disciples du Big Cola sont essentiellement constitués de gens totalement zombifiés par le manque de boissons qui suivent aveuglément un type qui fait sortir du Big Cola par ses mains.
Moi aussi je sais le faire, hein.
Ah ouais ? Mais putain, mais c'est mon jean ça, c'est dégueu !
Oui, mais c'est du Big Cola.
Bref, je n'ai pas envie de rentrer dans le détail, mais cet épisode est un gros rassemblement de différents clans dans toute la ville, suite à la rencontre du némésis de cet opus, le Pacificateur.
Attendez, vous ne tuez pas ?
Non, vous faites partie des personnes que je ne dois pas pacifier.
Et moi ?
Vous, je ne vous avais pas vu. Et vous êtes le bouffon du président-maire. Vous n'avez pas d'armes et vous n'avez aucun contrôle sur une quelconque armée. Vous pouvez vivre.
Mais vous êtes qui, en fait ?
Je suis le Pacificateur. Je suis ici pour apporter la paix à cette ville. Maintenant, je dois aller pacifier d'autres citoyens de Big City. Au revoir.
Badass !
Suite aux suggestions de son fidèle conseiller, le président-maire décide donc d'aller voir son papa et de lui piquer certaines ressources. Cependant, après que Terminator ait tué le papa du président-maire...
Grosse ambiance !
Le président-maire, après avoir fécondé la journaliste dont on se rend du nom, part à la recherche des royalties afin de créer une alliance et deux camps se mettent en place. Les rebelles s'associent à Burger et ses hommes, tandis que le président-maire arrive à rassembler les royalties ainsi que les disciples du Bicola qui sont en réalité des imposteurs. Quoi ?
Moi aussi, j'ai menti tout à l'heure. C'était mon urine !
La prochaine fois que t'interviens pour dire des conneries de ce genre, je te défonce, petit con.
J'ai noté. Hein.
Pendant ces réunions et facéties, les rebelles, représentés par Kyle et Bob, qui avaient infiltré les disciples du Big Cola afin de mieux connaître cette organisation, sont découverts et sont faits prisonniers du groupe fanatique afin que ce dernier puisse marchander avec les rebelles. État de crise, Kate se marie avec Burger suite à la proposition de ce dernier, et après avoir détruit le cœur de Marcus, scelle ainsi l'alliance entre les rebelles et le gang de Burger. Arrive le final avec d'un côté le président-maire et tous ses bolos, et le gang des burgers et tous ses bolos qui s'apprêtent à se foutre sur la gueule jusqu'à ce que...
Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est un oiseau !
C'est un avion !
Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Vous êtes quoi, vous ?
Je suis le Pacificateur, envoyé par le président Marty Morcel afin d'apporter la paix à Big City.
Je suis un sénateur, va les punir, mon gars !
Alors oui, mais il y a un léger souci. À mes yeux, le pacificateur devrait avoir un peu plus de prestance, de poids, de consistance. Et pourtant, quand il atterrit, ben...
Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est un oiseau !
C'est un avion !
Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Mais qu'est-ce que c'est ?
Je vais faire le même régime, mec !
Alors nous entamons la guerre contre le pacificateur. L'homme contre la machine. Nous arrivons à un passage qui m'intéresse beaucoup. Car Kate Muffin, qui est la sœur de Burger, rencontre la journaliste dont j'en ai rien à foutre du nom dans ce passage.
Bel exploit. Vous avez l'air forte. Je suis certaine que vous n'y êtes pas pour rien.
Effectivement. Tout comme vous n'y êtes pas pour rien dans les victoires de la rébellion.
C'est exact.
Ah, les hommes. Qu'est-ce qu'ils feraient sans nous ?
Vu comment les choses se passent dehors, pas grand-chose de bien.
Vous le dites, hein, si on vous fait chier.
Bon, on fait quoi ?
Ah, on attend qu'ils s'entretuent, je suppose.
C'est totalement surréaliste, mais j'aime autant qu'on se batte pas, je dois dire.
Et ceci, qui pourrait paraître pour une conversation totalement anodine, a... à mes yeux, énormément d'importance. Car au milieu de la simplicité de ces mots se cache surtout la seule information vraie de cet opus. Derrière chaque sociopathe qui se trouve à la tête d'un gang ou d'une armée se cache une ombre d'années prête à donner ses instructions. Kate, la journaliste, Muffin, le conseiller du maire, Sean, le copain de Kevin, le chef du disciple de Big Cola. L'ensemble de ces gens sont les véritables joueurs sur le plateau de Big City. Et ça fait énormément plaisir d'avoir ces personnes-là qui tirent les ficelles en toute tranquillité pour lutter contre le véritable boss final de cette aventure, le président des États liés.
C'est pas vrai !
Mais avant ça, reprenons la bataille.
Pourquoi ?
Tu t'es marié avec Kate.
Bon, voyez-vous, il y a quelque chose qui me dérange ici. Qui m'avait également dérangé durant le premier opus, c'est la non-puissance des armes à feu. Comme si la bataille en fait était un second plan. Alors je comprends qu'il faille bien sûr entendre les personnages durant leur bataille épique, mais j'ai beaucoup de mal avec le fait que le sound design soit aussi faible. Ça enlève beaucoup, beaucoup de puissance, beaucoup d'impact à une scène qui se voulait réaliste. Quoi qu'il en coûte, la guerre fait rage entre les humains et le robot, mais Kyle, qui réussit à se détacher de ses liens, trouve une solution pour vaincre le pacificateur. Il convainc tout le monde de baisser leurs armes et se précipite vers le monstre qui l'abat.
La loose universelle.
Vient alors la morale de la part de tous les autres persos du champ de bataille quant au fait que le pacificateur tue lolilol, ça concorde pas tout ça. Puis on apprend en fait que le pacificateur est en réalité un humain génétiquement modifié et qu'à partir de maintenant, il ne tuera plus personne. Fin de l'épisode 2.
Oui, sauf que t'as pas fait les comptes.
Ni. Détail.
La bataille aura coûté environ 4 252 337 978 munitions toutes armes confondues ainsi que la vie de nombreuses personnes, notamment celle de Kyle, Owen ou encore sa sainteté Kevin.
Ouais, alors je suis désolé, mais entre Kevin et Burger, moi ça me gave.
Non, mais il y a une explication logique quant au nom de Burger, ainsi que celui de son frère et celui de sa sœur.
Ouais, allez, vas-y, balance ton pitch intelligent.
Vivant dans les taudis depuis leur plus tendre enfance, le trio n'a connu que la misère. Leur maman a donc décidé de les appeler par des noms de bouffe, explicites car représentatifs d'une certaine forme de richesse, à savoir un burger, symbole du capitalisme américain, un muffin, symbole de la gourmandise, et un toast, qui représente le premier repas de la journée, le plus important et nutritif. De plus, il ne s'agit pas de n'importe quelle nourriture, ce sont des plats extrêmement caloriques, qui sont donc l'antithèse même de la nourriture trouvée dans les bas quartiers. Dans le monde des bas quartiers, le luxe est représenté par un lit, une assiette remplie. C'est donc avec ironie, mais surtout avec prédestination, que le trio s'est forgé une réputation et essaye de devenir le plus puissant possible par la création d'un gang. Outre fait rigolo, le seul groupe qui possède de la nourriture en pagaille dans l'épisode 2, excepté les propriétaires des réserves de Pepsi, c'est le groupe de burgers, qui porte donc une affinité supplémentaire avec la nourriture, symbole de richesse et de luxe à cet instant précis de l'histoire, ce qui nous ramène à la symbolique de leur prénom. Burger, Muffin et Toast.
J'avoue, t'as raison.
Ta-ta-ta !
Et au fait, du coup, par quoi se conclut l'épisode 2 ?
Par une mystérieuse fomentation de la part du président des États alliés et l'autre grand fiche de prix d'Alan Parrish.
Et vous savez ce qui est le pire dans cette histoire ? C'est que ce fiche de prix d'Alan Parrish porte le nom d'une de mes idoles d'enfance.
Tu m'en dis, porte toujours dans mon cœur, putain.
Bien, la tentative de pacification étant déjouée, le président ainsi qu'Alan Parrish le fiche de prix fomentent ensemble et mettent en place un nouveau plan pour se débarrasser de Big City.
Et mais au fait, pourquoi le président il veut détruire Big City ?
Oui.
Ah !
N'est-ce pas ? Et pour cela, comment s'y prend-il ? Le président décide de mettre des caméras dans la ville pour filmer ses derniers instants avant de la bombarder entièrement. Pourquoi me diriez-vous ? Pour faire un show ultra médiatisé, attraper ses sponsors et financer le bombardement par des multinationales. Et si ceci n'était pas aussi amoral, croyez bien que j'applaudirais. Mais arrête mec, on va passer pour des connards.
C'est trop tard si tu veux mon avis.
Cependant, la venue des caméras rend fou les nouveaux gérants de Big City, à savoir la coalition des chefs des gangs, ce qui a pour finalité de faire diverger les avis.
Grosse ambiance !
Ouais.
T'as pas l'air content.
Et tu sais pourquoi ?
Des hélicoptères partout !
Reprends-toi.
Ça.
Ça ?
Ouais, cette imitation de l'espèce de petite merde du film Madagascar. Tu sais, le petit écureuil volant qui insupporte tout le monde avec sa tronche affreuse et ses couinements dégueulasses.
Oui, oui, je me rappelle très bien, ouais.
Alors...
Qui a jugé cool de greffer ce bouffon dans l'épisode ?
J'avoue !
Alors oui, je sais, ce personnage était présent dans l'épisode 2 et je l'avais balayé de ma mémoire vu la performance.
Mais là c'est difficile de passer à côté vu qu'on lui réserve 10 secondes de chouinement sans rien d'autre à écouter.
Ouais, grave.
Ta gueule, Clyde. Hein ?
Pardon, réflexe. Le souci, en plus d'avoir ce personnage horripilant, c'est que cette scène se veut grave puisqu'on apprend à nos héros que des hommes armés installent des caméras pour l'émission Adieu Big City. Mais là, on a Richult qui casse tout, putain.
Alors on l'appelle Richult le personnage, mais en fait c'est parce qu'on connaît pas le nom du personnage dans l'histoire. Mais comme on connaît le nom de l'acteur, bah du coup on l'appelle comme ça, on l'appelle Richult, quoi. Par le nom de l'acteur et pas par le nom du personnage. Ça va ?
Et le pire dans cette affaire, c'est que la scène qui suit...
Éloignez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes en plein travaux.
Mais comment me parlez-vous ? Je suis le président maire de la ville.
Désolé, mais nous sommes envoyés par le président des États-Unis.
Et alors ? Nous sommes un état indépendant, vous n'avez rien à faire ici.
Pourquoi il vous a envoyé ici installer des caméras ?
Pour la nouvelle émission de télé-réalité de la chaîne LCTV, présentée par Alan Parrish, sponsorisée par Pizza Jabba, Rencontrique, Boeing Telecom et Big Cola.
Oh la vache, c'est mauvais.
Ouais, ça me rappelle le chapitre 4 de Red Universe.
Oh la vache, c'est super mauvais alors.
On a un combo Breaker Actoring en 2 minutes, voire moins en fait. Hein. Bref, revenons à l'épisode. Par conséquent, les héros décident de trouver une solution, tandis que l'émission Adieu Big City débute, entamant ainsi le compte à rebours fatal de la ville. Et quelle est leur décision?
Il faut qu'on se sépare de tous ces gens. C'est une évidence, on n'arrivera à rien avec eux. On n'arrive jamais à se mettre d'accord et je ne veux pas laisser ce pacificateur choisir pour tout le monde alors qu'il a tué autant de personnes dans tous les camps.
J'ai pas confiance en Marcus. Il faisait une drôle de tête aujourd'hui. Il prépare quelque chose.
Alors il faut qu'on agisse avant lui. Je ne vais pas encore me laisser marcher sur les pieds par ces pauvres.
Vous pouvez répéter?
Comme si je n'avais que ça à faire. C'est pourtant simple. Tout est de leur faute. Par conséquent, le King, nos hommes et moi allons partir.
D'accord. D'accord.
Combo Breaker!
Alors là, j'ai arrêté le temps, en fait, juste avant que ça commence. Mais comme il va gueuler, vous avez le temps de réduire le volume, en fait. Ah non, mais je plaisante pas, en fait, ça va vraiment saturer. Bon bah, je vous aurais prévenu, moi.
Puis le show commence. Ce spectacle télévisuel, prévu pour une durée d'une semaine, connaît un succès incroyable, mais les événements ne se déroulent pas vraiment pour le mieux. Car lorsque le président vient voir Alan Parrish pour lui demander comment s'est déroulée la première soirée, eh bien...
Après tout, aucun autre candidat n'est... Qu'est-ce que tu fais là, petite morue? Tu ne vois pas que je suis avec le président?
Désolé, monsieur Parrish, mais il faut que je parle en privé avec monsieur le président.
Alan?
Youhou! Il est mort! Yeah! Yupikai, pauvre con!
Et nous avons donc un virement de situation totalement inattendu de la part d'une personne dont nous ne savons absolument rien, mis à part...
Mon poté!
Oui, voilà, c'est ça. Connard.
Fils de prix!
Sauf que du coup, ça me dérange. Et j'expliquerai un peu plus tard pourquoi.
Toi, t'es jamais content.
Oui! Nous avons donc bien avancé dans notre affaire, car tandis que les groupes se séparent, deux comparses, à savoir John Perchman et Jack Cameraman, sont à la recherche de Sean, le petit ami du défunt frère du président-maire, parce que ce dernier leur a demandé de le retrouver.
Lorsque tout à coup...
C'est des assoiffés. Éteins le feu.
Comment est-ce qu'ils peuvent être encore en vie, ceux-là?
C'est parce qu'ils se nourrissent de chair humaine.
Le pire, c'est que c'est sûrement vrai.
Non, ça venait d'ici, ça.
Oh merde.
Cours!
Oh putain!
Fais tomber des trucs par terre!
Pourquoi?
Pour voir la pétanque! Bah non, pour ralentir du con!
Alors désolé, mais j'y crois pas du tout. Entre le surjeu ou le manque de jeu d'acteur, les punchlines et le rythme qui aurait demandé un soupçon de dynamisme, cette scène qui se veut punchy n'y arrive pas. Même la musique, composée par une multitude de percussions, ce qui revient à une musique martiale prenant le choc, l'impact, devrait nous indiquer la puissance de ce passage. Et pourtant, nous n'atteignons jamais cet objectif.
Mais c'est qui, au fait, ces deux gars?
Ce sont les gars qui accompagnaient la journaliste qui couche avec le président-maire.
Ah.
Maintenant que chaque groupe se sépare, chacun va essayer de trouver une solution pour s'échapper. Du côté des rebelles, on cherche une brèche dans le mur qui entoure la ville. Kate et les siens cherchent une issue par les égouts pour trouver également une fragilité, tandis que le président-maire et le King tentent d'exploiter la voie des cieux jusqu'à ce que...
J'ai eu peur que sa main s'infecte, alors je lui ai coupé. J'ai essayé de lui cautériser la plaie.
Je pourrais plus tenir une caméra.
Ça va aller, tu vas voir.
Mec, t'as perdu ta main, et le seul truc qui te vient en tête, c'est...
Je pourrais plus tenir une caméra.
Tu seras incapable d'utiliser 80% des outils qui sont à ta disposition, mais tout ce qui te percute, c'est...
Je pourrais plus tenir une caméra.
Tu vas ressentir des douleurs fantômes toute ta vie, et...
Je pourrais plus tenir une caméra.
Tu peux plus jouer à la console, et toi?
Je pourrais plus tenir une caméra.
Tu vas prendre 3 fois plus de temps que tout le monde pour faire des actions banales, et...
Je pourrais plus tenir une caméra.
Tu pourras plus te branler, et... Quoi?
T'as pas besoin de tes deux mains, Marcel.
Parle pour toi, petite bite.
Suite à quoi, alors que tout le monde cherche une solution pour se barrer de la ville, le président-maire fait greffer un sabre télescopique à notre bon vieux John, puis nous avons le droit à une entrevue entre Kate et ses parents, qui doivent tenir certainement le discours le plus sexiste du monde, à un point que ça m'en paraît totalement grossier. Et le problème, c'est que j'apprécie cet instant comme je le trouve lourd, en fait, hein, tant les parents de Kate sont clichés et cons.
Mais le souci, tu sais, c'est qu'il y a vraiment des gens comme ça.
Ouais, je sais. Et du coup, même si je ne digère pas ce dialogue, je le trouve normal, en fait. Sachant qu'en plus, dans la scène, nous trouvons une Kate qui est quand même au mieux de sa forme, avec un discours sorti avec les tripes, et nom d'un chien, ça fait du bien à mon égalitariste. Mais avançons un peu, parce que là on traîne. Donc, d'un côté, nous avons le King et le président-maire qui envoient un avion test pour survoler le mur qui se fait abattre au KLM. Kate qui passe sous les égouts avec Muffin et Burger car elle a trouvé une faille dans le mur. Mais ces deux derniers meurent quand Marcus décide de faire péter le mur juste au-dessus d'eux pour faire une percée et permettre à tout le monde de sortir.
Et du coup, comment est-ce qu'ils sortent de la ville, le président-maire et le King?
Deus Ex Machina.
Quoi?
La nana qui a tué Alan Parrish a également pris le président en otage et lui a ordonné d'envoyer des hélicos dans la ville pour secourir les gens. Parce que la nana est une amie de Sean.
Ah bah voilà son utilité!
Oui, voilà, oui. Mais le président des Étaliers, dans un élan de rage, décide de raccourcir le compte à rebours fatal de la destruction de la ville à 1 heure.
Mais les gens sont sauvés.
En partie. Il y a toujours des dégâts collatéraux, tu sais. Et parmi eux...
Bob, il faut que tu viennes avec nous. On a trouvé un moyen de sortir de la ville. Tout le monde est prêt. On n'attend plus que toi pour sortir.
Seulement moi?
Et le pacificateur, si tu veux.
Ouais. Non, merci, gamin. Je vais rester ici.
Quoi? Mais pourquoi?
J'en ai marre de tout ça. Et puis le pacificateur n'a presque plus de batterie. Il peut plus voler. Le seul endroit où il pouvait s'alimenter, c'était en dehors de Big City. Alors, faut bien que je reste avec lui jusqu'à ce qu'il soit... hors service.
Et pourquoi tu vas faire ça? Il a tué Kyle et Owen.
Je sais ce qu'il a fait. Je suis pas encore gâteux, tu sais. Je sais encore cracher droit. Comptez deux par deux, et là c'est mes godasses. Mais faut savoir pardonner. Sinon tu restes qu'un connard parmi les autres. Rongé par les remords et la soif de vengeance. J'ai plus envie de ça. J'ai vécu toute ma vie en étant aigri à cause de mes défaites politiques, qui m'ont d'ailleurs conduit dans les bas quartiers, exilé par mon rival. Et après, hein, je ne voulais qu'une chose, me venger de lui. Le faire payer pour cette vie de misère à laquelle il m'avait condamné. Et en vivant dans les bas quartiers, je me suis dit que je pouvais faire d'une pierre deux coups. Alors, j'ai créé la rébellion. Et tu m'as rejoint, toi, mon neveu. Et avec toute la pureté et l'innocence du monde, tu m'as juré de m'aider à changer le monde établi et à sauver les gens des bas quartiers. Et tu l'as fait. Vous l'avez tous fait. Toi, Owen et Kyle.
Où est-ce que tu vas en venir?
Oh putain, non, pas Bob et le pacificateur!
Cet extrait est à mes yeux le passage le plus émouvant de toute la série. Car le discours de Bob est sincère. Je note ici le jeu incroyable de l'acteur, l'écriture de son discours qui est fabuleuse, l'ambiance qui est sobre minimale, la musique qui est impeccable, et tout ça donne à Bob en fait toute l'importance qu'il mérite dans ce passage. Un moment parfaitement sincère qui remue les tripes, et c'est ça, Big City! C'est faire comprendre que certaines situations cachent des raisons profondes, des sentiments enfouis et des personnages beaucoup plus complexes que n'importe qui ne l'aurait imaginé. C'est ce que j'apprécie énormément dans cet univers, qui, malgré quelques erreurs, conserve cette originalité si précieuse et ce genre totalement unique.
J'avoue que c'était beau. Et du coup, comment ça se termine?
Eh bien, Kate retrouve Marcus, et le tue parce qu'elle est furax après lui. Hein. Des gens sont sortis et d'autres pas, et le président maire et sa clique vont jusqu'au palais du président des Italiens. Et là...
Matteo!
Marty!
Sean!
Hélène!
Alistair!
Allons, c'est moi ça.
Ah, je suis si heureux de vous savoir tous sains et saufs.
Je n'en doute pas.
Vous voulez boire un verre, mes amis? Une petite collation, peut-être?
Mais, où est Kevin?
On en parlera plus tard.
Oui, pour l'heure, donnez-moi ça.
Mon arme?
S'il vous plaît.
Qu'est-ce que tu fais?
Tu y as cru jusqu'au bout. Tu as cru que tu m'avais humilié avec ton mur ridicule, avec le nouvel état libre et indépendant Big City. Pourtant là, c'est moi qui ai le flingue.
Mais tu ne vas tout de même pas.
Voilà, comme ça on est sûr qu'il est mort.
Ah putain, ça a été rapide, hein.
Ouais. Mais le pire dans tout ça, c'est que le président maire de Big City décide de créer un empire et les autres le suivent dans son délire. Et c'est la fin de Big City.
Non, t'as oublié, il y a une interview du perchman et du caméraman qui racontent comment ils ont survécu à la destruction, et on entend ensuite une femme avec son enfant dans les ruines de la ville, et là, c'est la fin de Big City.
Et c'est dommage.
Mais je croyais que tu trouvais ça intéressant.
L'un n'empêche pas l'autre. Mettons les choses au clair concernant cette fiction dans un premier temps. J'ai beaucoup aimé cette série dans sa globalité, et je la recommande, je vous recommande absolument d'entendre cette série. Deuxième point, il s'agit, si je ne dis pas de bêtises, de la première grosse création du duo Grushkov et Tukituki. Je pense que beaucoup de gens reconnaissent la valeur et la difficulté d'un travail pareil. On ne parle pas ici d'un mono ou d'un moyen métrage, mais bien d'une série qui cumule au total les 4h12 d'écoute. C'est un projet très chronophage, aussi bien du point de vue créateur que du point de vue auditeur. Rajoutez à cela le thème abordé ainsi que la complexité du schéma scénaristique choisi et vous obtenez une histoire terriblement compliquée et ambitieuse. Car c'est bien d'ambition dont je parle, et pour une raison très simple. Big City n'est pas une histoire comique. C'est une fantaisie qui dénonce une situation bien particulière avec des relents d'absurde, mais je peux vous assurer que l'histoire de Big City n'est pas drôle. Évidemment, les auteurs décantent la situation avec ici des mises en scène amusantes, des jeux de mots plutôt bien trouvés et des sketchs relativement efficaces, mais nous entamons ici comme sujet la pauvreté que l'on cache au monde et la dépendance à l'ultra-consommation. Ici, on nous a placés dans cette grande ville archétype pour suivre l'aventure de gens qui ne sont rien d'autre que des produits d'une société de surconsommation, gavés par les publicités, les émissions pourries et l'abus de marques omniprésentes qui parasitent le quotidien du peuple au point que ces gens, ces consommateurs, ne peuvent plus se passer de leur environnement. La métaphore des zombies, bien qu'elle soit extrême, n'est pas si éloignée de la réalité. Supprimez les téléphones ou bien les pizzaiolos de votre ville et vous allez voir qu'il manque quelque chose qui avait pris une importance bien plus conséquente que vous ne le croyez dans votre quotidien. C'est avec cette prétention que vous obtenez Big City, l'aventure de multiples protagonistes, chacun vivant dans un milieu différent, qui vont finir par se retrouver dans la même position pour faire en sorte que tout le monde se rende compte de la situation de leur monde. Et c'est ceci qui est à la fois intéressant et dommage. Intéressant parce que le premier opus de la trilogie vous plonge dans la diversité de cette cité-type. Intéressant parce que l'épisode 2 aborde la résolution par l'union, certes de manière aléatoire, mais abordée. Et dommage parce que l'épisode final décide de briser toute sa construction. Nous pouvons entendre un genre de rise and fall, le souci étant que dans la série, la chute est constante. Il n'y a jamais d'amélioration de vie, jamais de morale ciblant cette société dénoncée, jamais de message explicite visant à pointer du doigt ce monde dans lequel nous vivons. C'est un choix de neutralité. Mais ce choix me dérange, car en écoutant cette série, on comprend totalement la position des créateurs. Et moi, je leur reproche de ne pas avoir poussé ce message jusqu'à l'extrême. L'idée a été abandonnée pour laisser place au personnage. Le sérieux pour laisser place au comique de situation. Et ça me dérange. Parce que j'ai la sensation qu'il manque quelque chose à cette série. Ce début de vie, de message que l'on ressent dans l'épisode 1, et qui ne revient jamais vraiment dans la suite des événements. Comme s'il manquait un morceau d'âme, en fait, au reste. De plus, l'épisode 3 a, selon mon avis, la fâcheuse tendance à user et abuser d'un effet d'écriture simple que j'ai invoqué tout le temps de cette critique, le bien nommé
Deus Ex Machina.
Le Deus Ex Machina permet de résoudre une situation en amenant de nouveaux éléments à l'œuvre. Il peut s'agir de personnages, de nouvelles réflexions, de situations, de lieux, d'éléments en tout genre, qui vous permettra de faire avancer votre aventure. Ici, on l'utilise pour que le président des États-Unis se fasse prendre en otage, pour sauver le président Mayer et ses sbires, pour le pacificateur qui devient gentil, au point où ça en devient en fait incohérent scénaristiquement parlant. Si le pacificateur avait cette conscience bien nommée dans le crâne, jamais il n'aurait agi de la sorte, et ce depuis le début. Le déclic se serait fait de lui-même. Pareil, la fameuse femme qui sauve le maire et ses hommes restera une inconnue, parce qu'on ne sait rien d'elle. On pourrait se dire que cette personne va jouer un rôle majeur dans la suite des événements, mais même pas. On ne sait pas qui elle est, ce qu'elle fout là, quelles sont ses véritables intentions puisqu'elle va être nommée chef des services secrets, et du coup, bah on s'en branle, putain! Ce personnage est frustrant, au point que ça m'a gêné que ce soit cet inconnu qui abat Alan Parrish, parce que ce présentateur, bien que détestable, possède une identité, une image, et donc, à mon respect, le faire tuer par cet inconnu m'a gêné, parce que c'est inattendu et gratuit. Cette nana ne vaut pas mieux que lui, parce que je me fous d'elle.
Pourtant, c'est cette surprise qui rajoute en réalisme. On en a même plusieurs qui sont plutôt efficaces.
Tu veux parler de la mort de Burger ?
Tout à fait.
Mais c'est pas gênant dans ce cas-là, pour une raison très simple. Le concours de circonstances s'y prête. Là, on peut pas le deviner, parce qu'il nous manque une information. Qui est la meurtrière, mis à part la meilleure pote de Sean ? Mais là encore, ce n'est pas tout. Arrivé à la fin, tout le monde décide de suivre le président maire dans son délire impérial pour fonder un nouveau monde. Alors je dis non. Tout le monde sait que ce type est ultra con, alors pourquoi vous ne le désinguez pas lui aussi pour que les personnes responsables prennent les choses en main ? Ah oui, vous me direz, c'est parce que la plupart des personnages concernés préfèrent rester dans l'ombre et faire en sorte que le président maire prenne pour tous. Sauf que ça marchera pas, étant donné qu'il est aussi patient et malin qu'un enfant de 8 ans. Et le souci, c'est qu'il y a des tas d'autres questions qui me passent par la tête et qui remettent en cause des choix qui semblent logiques.
Oula, toi, tu vas te lancer dans l'énumération des questions qui gavent, non ?
Les questions qui gavent, hein. Tu les veux, ces questions ? Ok, pourquoi tout le monde suit le maire alors qu'il est con ? Pourquoi tout le monde adore Alan Parrish alors que c'est un gros bouffon ? Pourquoi les gens trouvent génial de voir la destruction d'une ville à la télé ? Pourquoi tout le monde est drogué par le Big Cola alors que c'est que du sucre ? Pourquoi le seul gars intelligent s'appelle Bob et c'est un clodo ? Pourquoi Burger est-il lui aussi débile ? Pourquoi c'est un mec qui joue sa sœur ? Pourquoi John Perchman est caméraman et Jack caméraman est Perchman ? Pourquoi on lui a remplacé sa main manquante par une épée télescopique ? Qui est le putain de médecin qui lui a remplacé sa main ? Et pourquoi on s'en fout de ce médecin d'ailleurs ? Pourquoi le président maire veut greffer une lame télescopique sur le bras d'un caméraman ? Et pourquoi celui-ci s'en bat les couilles ? Pourquoi Kate fait genre elle est gentille ? Mais elle pense surtout à sa gueule. Et pourquoi de putain de pourquoi on a le droit à un extrait de merde montrant un somptueux connard qui exploite l'argent de sa femme alors que ça n'a aucun putain de rapport avec la trame principale ?
Tu ne me demandes pas comment s'est passée la mienne ?
Non. Qu'est-ce que c'est que cette lettre ?
Le récapitulatif des actions du dernier mois sur notre compte commun. Stéphane, je ne voudrais pas te critiquer, mais notre argent, c'est moi qui le gagne pendant que tu sors avec tes amis tous les jours.
Qu'est-ce que cela signifie-t-il ?
Eh bien, c'est toi qui dépenses tout notre argent.
Menteuse. Et qui a osé commander des pizzas avant-hier ? C'est cela qui fait que nous ne pouvons pas payer nos factures et non mes ridicules dépenses en boissons dans des bars ou les cadeaux que je fais à ma...
T'as quoi, Stéphane ?
Ma... maman.
Putain, ce final me gave tellement ça transpire l'illogisme et l'incohérence. J'assiste à mon ressenti au massacre du neuf par ses parents et ça me saoule. Tout commençait si bien, tout me donnait des étoiles plein les yeux, mais non. Rajoutez à ça le fait que l'épisode 3 traîne en longueur à cause des scènes inutiles, et dont on se passerait bien soit dit au passage, et vous avez le combo de tout ce qui est chiant dedans. J'ai été constamment dans l'attente d'un événement qui allait me faire de nouveau tilter, qui allait embellir ma pensée. Et je peux vous assurer que j'attends toujours.
En fait, Big City, c'est inachevé.
Oui, complètement. L'histoire de Big City est terminée, mais pas celle de ses personnages principaux.
Bah dans ce cas, il faudrait juste écouter la suite.
Quelle suite ?
Non, tu déconnes !
Non. La frustration est là, en effet.
Il pourrait plus tenir une caméra.
Ouais, la même que pour lui.
Mais il y a de très bonnes choses dans Big City. Ne serait-ce que la composition faite maison est donc parfaitement adaptée à la série. Et ça, c'est un bon plus.
Alors ça, je valide totalement. Ça donne à l'ensemble une empreinte, une mélopée propre à l'histoire, avec des thèmes liés à des personnages ou des lieux, permettant à l'éditeur de, même s'il n'arrive pas à mettre le nom sur quelqu'un ou sur quelque chose, de se fixer dans l'aventure. Par exemple, le pacificateur est un détournement de Terminator. Et étrangement, son thème ressemble énormément à celui du film. Ça semble limite pompé, mais c'est bien l'effet escompté. Je disais la chose suivante sur le pacificateur. C'est un robot qui n'a pas l'air effrayant, mais je l'ai bel et bien qualifié de robot. Et pourquoi ?
Parce que la musique !
Exactement. De même, concernant les acteurs principaux et le mixage général, on tend que vers le mieux, avec du travail bien ressenti, notamment sur la spatialisation et les détails de montage concernant les bruitages utilisés. Cette série démontre une évolution technique que l'on pourrait, si on cherchait loin, comparer avec le personnage qui me fascine le plus compte tenu de son comportement, Kate Bobbs. Au départ mignonne et ignorante, se foutant de la vie, ce qui correspondrait à un montage et une mise en scène très simple. Puis, au fur et à mesure que l'on rentre dans l'histoire, Kate devient complexe, de la même manière que la progression technique.
C'est un peu tiré par les cheveux là, c'est même carrément pas comparable mec, arrête !
Non, en effet, mais ce personnage d'origine creuse se construit et fait preuve d'une personnalité et d'un caractère inattendu. Big City nous présente des personnages ayant des fonctions. Le maire, Marcus qui est le chef de la résistance, Burger qui est un chef de gang, etc. etc. Mais si vous faites bien attention, les personnages qui en fin de compte sont les mieux réussis à mes yeux n'ont pas de titre, et j'en prends pour exemple principal, Kate et Bob. Ces deux protagonistes font mouche, de par leur jeu d'acteur, leur réalisme, et par la sincérité dont ils font preuve. Nous ne sommes pas dans le cas d'un président-maire qui se résume à sa fonction, ni à un king qui porte très bien son pseudonyme. Nous avons ici deux personnages haut en couleur qui nous convainquent, et c'est ça le plus important. Je vous l'ai dit dès le début, cette critique est subjective et prend mon point de vue. Et ce point de vue est le suivant. Je considère Big City comme une fiction ambitieuse. Le message principal est là. L'enchevêtrement de ce monde blindé de produits de consommation, de publicité et de journaux télévisés est une réussite, et c'est à mon sens le principal. Ce qui me déplaît en fin de compte, c'est l'histoire qui accompagne cet univers, ce qui entraîne alors une grosse contrainte à l'environnement de Big City. Je ne peux pas être plongé dans un univers que je souhaite dénoncer si je n'ai pas de fil conducteur qui s'y prête. Ici, le point de vue de Kate qui chute pour mieux se relever, se voir découvrir sa force intérieure, ses convictions, tout est fait pour ressentir le mauvais côté de Big City. Le souci étant que si comme moi, vous ne considérez pas Kate Bobbs comme un personnage qui veut sauver des gens, mais qui fait surtout ceci pour sauver sa peau, le message sera différent. Bien sûr que dans le troisième opus, elle est altruiste, mais rappelez-vous que la saga s'étale sur plus d'un an et demi. Le quotidien est constitué de tâches telles que gérer les besoins de la nouvelle vie. Et cela prend également en compte le fait qu'elle gère ses propres besoins. De plus, le troisième mono s'amorce sur une réunion entre les différents chefs de clan, et il est triste de constater que, mis à part Kate et Bob, tous les autres sont cons. Mettez un révolutionnaire qui veut faire la peau à ses ennemis, un Donald Trump-like et un ancien robot humain génétiquement modifié, et vous avez le tour des gens qui gèrent Big City. Et c'est normal que ce soit le bordel, et que Kate, qui a fini par se construire, se créer une identité, se sente obligée de prendre les seules décisions, celles que tout le monde prendrait en temps normal. Mais encore une fois, je vous invite à écouter et réécouter cette fiction qui a en sa possession un panel d'idées fous et qui vous plonge dans un monde bien particulier. Une ambiance mélangeant horreur et absurde avec légèreté et qui vous amènera jusque dans les ruelles de cette ville en vous présentant un monde comme vous en voyez tous les jours sans vous en rendre compte. C'était Big City, et c'est une fiction à écouter.
De 95% des voix du nouveau maire Marcel Lapsire qui donne un nouvel espoir aux concitoyens de Destro City. Son programme visant à restructurer de manière équitable la répartition des idées scénaristiques aurait séduit la plupart des habitants imaginaires de la ville, notamment Monsieur Doodle, qui rageait de ne plus voir de nouveaux rôles pour lui dans les futurs projets.
Faut bien que nous fêtions ta victoire écrasante comme il se doit.
La bouteille est sur la table, certains.
Qui est-il ?
Parfois, tu te sens pas coupable.
Ça dépend des gens. À quoi tu penses ?
Des critiques. Mais ces gens-là, on les désigne comme si on avait la science infuse.
Quoi ? T'as peur que je me trompe ? C'est ça l'avantage, Marcel. Je peux pas me tromper. Une critique est propre à la vie d'une personne. Ma version est différente de celle de tous les autres. Moi, je ne fais qu'exprimer mon ressenti. J'ai aimé l'univers de Big City, j'ai pas aimé le scénario.
Oui, mais nous sommes violents.
Chacun a sa manière de s'exprimer. Je m'énerve jamais pour le plaisir, Marcel. Tout ce que je veux, c'est voir les gens progresser. Arrête d'être pilé, bois un coup, relaxe-toi. La campagne est passée. Demain est un autre jour.
Comment tu fais pour rester si stoïque ?
C'est qu'une apparence, de même que cette élection. Changeons de visage, relançons la production.
On va se remettre à faire des critiques comme ça plus souvent?
Non, pas forcément. Disons qu'il y a des projets que nous allons terminer maintenant. La production s'ouvre, Marcel. D'autres critiques pourraient voir le jour. Les autres projets vont se terminer. Maintenant, c'est nous. Simplement nous.
À nous alors.
À nous.